Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un épisode épique de l'histoire de France que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Omblin, bonjour à tous. J'ai convié Patrick de Gmelin à se joindre à nous. Vous pouvez donc en déduire qu'il y a du militaire dans l'air. L'histoire poignante que je voudrais vous raconter en effet, c'est celle des quatre sergents de La Rochelle. Et pour faire bonne mesure, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Vincent sur l'origine de quelques expressions liées au tambour. Allez, en avant, marche !
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Si vous connaissez un peu La Rochelle, vous avez presque à coup sûr entendu parler de la tour des quatre sergents, de la rue des quatre sergents. Il y a même un restaurant qui porte ce nom. De quel sergent parle-t-on? Pour le savoir, il faut remonter à 1822, sous le règne de Louis XVIII. Vous savez qu'après la Révolution et l'Empire napoléonien, les frères de Louis XVI sont revenus un temps occuper le trône de leurs ancêtres. On appelle ce régime la Restauration des Bourbons. Eh bien, nous sommes le 21 septembre 1822 à Paris, sur la place de Grève. C'est l'actuelle place de l'Hôtel de Ville. Il est 5 heures du soir. Il y a foule sur les quais, sur les ponts. Il y a foule aux fenêtres. Une foule silencieuse et visiblement émue. Deux charrettes arrivent en provenance de la conciergerie avec dans chacune deux hommes accompagnés d'un prêtre. Ces hommes sont jeunes, ils sont beaux. Les voici, nos quatre sergents. Ils ont l'air impassibles, mais dans quelques minutes, ils seront morts. Car une guillotine a été dressée sur la place, elle va leur trancher la tête. Toute la garnison de Paris est sous les armes. Le premier homme à monter à l'échafaud s'appelle Marius Raoult. Il embrasse ses amis avant de marcher au supplice. Puis viennent le sergent Goubin, les sergents-majors Bory et Pommier. Avant que le couperet ne tombe, Marius, Charles, Jean-François et Jean-Joseph lancent un ultime appel, comme une sorte de cri du cœur. Vive la liberté ! Mais quel crime ces quatre jeunes soldats ont-ils bien pu commettre ? Juillet 1821, à Paris, et plus précisément dans les rangs du 45e régiment d'infanterie. Une nouvelle arrive et met en émoi toute l'unité. On vient d'apprendre, on est en juillet, il faut le temps pour que les nouvelles circulent à l'époque, on vient d'apprendre qu'à Sainte-Hélène, Napoléon est mort. Vous imaginez l'émoi dans le régiment, il faut vous dire que cette unité contient des restes de l'armée napoléonienne. Il y a pas mal d'engagés volontaires. Le 45e régiment d'infanterie a une réputation bonapartiste. Ça fait longtemps que ce régiment est considéré comme fidèle à l'empereur déchu et maintenant défunt. Un jour, le marquis de Toustin, qui est un personnage haut placé, présente ses soldats au général baron de Crossard. Il pleut ce jour-là, il pleut à verse. L'inspection se termine et le général, après avoir félicité le colonel pour la bonne tenue de son unité, harangue le régiment et à la fin de son petit discours, il lance un vibrant « Vive le roi !» Eh oui, on est sous le régime de la Restauration, on est sous le roi Louis XVIII. « Vive le roi !» Et là, silence, long silence. À part le colonel de Toustin, personne n'a repris l'acclamation. « Monsieur le baron, dit le marquis de Toustin avec un rictus, je crois qu'ils ne vous ont pas bien entendu. » Donc il se tourne vers ses hommes et il leur lance « Allons mes amis, criez avec moi, vive le roi !» Et de nouveau, c'est un long silence, pas de « vive le roi », on n'entend que la pluie qui tombe. En guise de punition, les hommes vont être envoyés à Dieppe, puis au Havre. Quelques semaines plus tard, le marquis de Toustin, qui a craint sans doute pour sa place, malgré de bonnes relations avec le pouvoir en place, le marquis est parvenu à faire croire que son unité était devenue totalement royaliste. Et c'est donc ce régiment qui est revenu à Paris en mai 1821. Seulement, l'intense émotion suscitée par la mort de celui qui a été l'empereur des Français prouve que, évidemment, Toustin se trompe et que le bonapartisme prolifère plus que jamais dans les rangs de ce 45e régiment d'infanterie. Et d'autant plus que le régiment est installé depuis son retour à Paris dans le quartier latin. dans l'ancien collège des Grassins qui est devenu entre-temps une caserne. Or, ce quartier est très fréquenté par les étudiants libéraux qui ont pris l'habitude de venir discuter avec les militaires. Il y a eu des fraternisations. Parmi ces militaires qui bavardent avec les étudiants à la tête chaude se trouve le sergent-major Jean-François Bory. Il a 26 ans, il vient de l'Aveyron, il a fait partie de l'armée napoléonienne et il a d'ailleurs été blessé à Waterloo. Voilà ce que nous raconte Jean-Lucas de Breton. Une belle taille, de la finesse dans les traits, de la douceur dans l'expression, ce fils de paysan avait une distinction naturelle. Ses mœurs étaient pures, ses goûts simples, sa vie retirée. Il lisait le plus qu'il pouvait. Les Annales de la République française étaient son livre de prédilection. On voit un peu à qui on a affaire. Autant dire que Bory n'est pas très royaliste, qu'il ne l'est même pas du tout. Il est vrai qu'il rêve de devenir adjudant et qu'il est convaincu que son passé dans l'armée napoléonienne l'empêche d'accéder à ce grade et que c'est la seule raison. En ce mois de juillet 1821, le sergent-major est bien entendu bouleversé par la mort de Bonaparte. Tous les espoirs sont désormais placés en Napoléon II, le fils et l'héritier de Napoléon Ier, le duc de Reichstadt qui se trouve à Vienne prisonnier. Il n'a alors que 10 ans, le duc de Reichstadt. C'est alors que Bory retrouve un ami d'enfance, étudiant en médecine. Cet étudiant lui lance « Veux-tu faire partie d'une société qui a pour but de conquérir la liberté à main armée ?» Autant demander à un malade s'il veut la santé. La société en question, elle s'appelle les Carbonari. Et en France, on parle de charbonnerie.
Un extrait de la marche au supplice d'Hector Berlioz. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur les quatre sergents de La Rochelle.
Juillet 1821, le jeune sergent-major du 45e régiment d'infanterie Bory, qui, on l'a compris, a des idées révolutionnaires et républicaines plein la tête et qui est nostalgique d'un bonapartisme idéalisé, disons-le, ce jeune sergent-major vient de découvrir l'existence des fameux Carbonari. Alors de quoi s'agit-il ? Ben, on va en parler dans un instant avec Patrick de Gmelin. C'est un courant politique qui vient d'Italie, qui est né dans le royaume de Naples après 1805 pour lutter contre la domination napoléonienne et qui ensuite s'est étendu, après 1815, contre les souverains italien restauré. Il faut vous dire que les Bourbons sont aussi remontés sur le trône de Naples. Il y a eu des restaurations tous azimuts dans ce début du 19e siècle. En France, la charbonnerie est répandue depuis quelques années et c'est un courant qui, dans un premier temps, était sans doute bonapartiste et libéral, mais qui est clairement républicain. Je vous ai dit que le quartier latin était un des hauts lieux de ce républicanisme. C'est une sorte de poche de résistance à la monarchie bourbonienne. Tous se retrouvent autour d'un même objectif, renverser le roi, renverser les Bourbons que l'on accuse de violer les libertés révolutionnaires. Il faut vous dire que Louis XVIII a accordé à son peuple une charte, bien entendu. Un certain nombre d'acquis ont été conservés de la Révolution. Mais d'une façon générale, il faut bien dire que pendant ce régime de la Restauration, on fait comme si rien n'était arrivé. On essaie de renouer avec l'ancienne France. Et Louis XVIII n'est pas seulement le frère de Louis XVI, il s'est victimes sont continuateurs. Parmi les plus forts soutiens de la charbonnerie, on trouve un certain Lafayette, le fameux héros de l'indépendance américaine. Ça aussi, on va y venir. Alors, pour mener à bien son complot, la charbonnerie fonctionne comme une sorte de loge maçonnique. Il y a différentes strates, les ventes, on va y venir. Tout ça obéit à une hiérarchie, d'ailleurs, très précise, avec à la tête de chaque vente un membre fondateur et un président des députés qui dirige une vingtaine d'adeptes. C'est André Castelot qui nous parle. Les conspirateurs, dit-il, étaient armés d'un étrange bric-à-brac de rites, de formules, d'initiations, de serments, de poignards, de signes mystérieux de reconnaissance. Bref, tout un appareil cabalistique destiné à effrayer les âmes simples et à les envoûter. Le vénérable grand maître portait même une tunique bleu céleste et l'hiver, un pantalon couleur chair. Bory est, dans un premier temps, interloqué. Évidemment, par cette société secrète. Il est encore jeune, vous avez bien vu qu'il a un tempérament relativement conspirateur, il y a de quoi le séduire dans cette affaire. Renverser les Bourbons, c'est exactement ce dont il rêve, disons-le. Il accepte donc d'être initié à l'hôtel de la paix, à la montagne Sainte-Geneviève. Il a un bandeau sur les yeux, enfin il y a tout le rituel. Il prête serment, je cite le serment. « Je jure sur l'honneur et sur le fer, vengeur du parjure, de garder tous les secrets de la charbonnerie et de cacher son existence, d'associer mes efforts à ceux des amis de ma patrie pour lui rendre l'exercice de ses droits et de la mettre en état de choisir un gouvernement fondé sur les principes de la souveraineté du peuple. » Entre parenthèses, on s'éloigne clairement du bonapartisme car depuis 1804, on ne peut pas dire que la souveraineté du peuple ait beaucoup compté pour Napoléon. Je ferme cette petite parenthèse. Alors, à ce moment-là du rite, le bandeau tombe et le sous-officier est entouré de poignards, le manche tenu par les membres de la vente. Voyez un peu comme tout cela, évidemment, peut séduire un jeune officier qui, ou en l'occurrence sous-officier, qui voudrait voir partir les Bourbons. Alors Bory va essayer lui-même de créer une petite cellule, une vente, si vous voulez, au 45e régiment d'infanterie. Vu les affinités politiques de la plupart de ses membres, disons qu'il n'a pas trop de mal à recruter des adeptes et notamment, il est rejoint par le sergent-major Jean-Joseph Pommier, qui a 25 ans, par le sergent Marius-Claude Raoult, qui donc en a 24, et un autre sergent, Charles Goubin, qui n'a que 20 ans. Tous viennent de milieux sociaux modestes, tous sont des hommes sans histoire, on ne peut pas dire qu'ils aient un passé lourd, tous ces jeunes gens, loin de là. La petite vente, la petite cellule, comment dirais-je, la loge, est formée donc au sein du 45e régiment d'infanterie. Elle doit recevoir d'un moment à l'autre un signal, qui serait le signal du soulèvement qui doit être donné par la grande loge principale, la vente Washington, qui se situe rue Copeau. Tout ça, c'est grosso modo dans le même quartier. Vous voyez, on est sur la rive gauche de la Seine. Les mois passent, la police militaire commence à sérieusement s'inquiéter de l'état d'esprit du 45e régiment d'infanterie, malgré toutes les dispositions prises par Bory et ses amis pour ne surtout pas lever le moindre soupçon. Néanmoins, comme on craint l'existence d'un complot, on se dit qu'il serait peut-être bien de procéder à quelques ajustements, on prend les devants, ordre est donné de transférer le 45e RI à La Rochelle. Ah, ça va tout changer, bien entendu. Le départ est fixé au 22 janvier 1822. Bory est à moitié rassuré. Quitter Paris et le quartier latin, le fief de la charbonnerie, dont l'un des QG, si je puis dire, est un cabaret au roi Clovis, c'est un coup dur. Ça, c'est incontestable. Mais en même temps, on lui a donné la garantie que sur la route de La Rochelle et dans la ville même, Bory va rencontrer un certain nombre d'initiés au rite de la charbonnerie. Il va pouvoir échanger avec des opposants à la monarchie. Bref, c'est comme si d'un seul coup, il étendait son champ d'action. Avant son départ, il reçoit de l'argent, des poignards, ça c'est l'emblème des Carbonari, une moitié de cartes découpées qui lui permettra de reconnaître sur la route des émissaires munis de morceaux de cartes correspondants. Vous voyez que tout ça quand même ressemble à une espèce de complot qui est en train de couver. Le 22 janvier 1822, donc comme prévu, nos quatre sergents et les autres membres du 45e RI partent pour La Rochelle. La Rochelle, nous y voilà. Vous comprenez pourquoi on va bientôt parler des sergents de La Rochelle.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les Carbonari sont au cœur de l'histoire sur Europe 1 et Franck Ferrand, vous nous racontez le destin des quatre sergents de La Rochelle.
Nos carbonari sont en route, évidemment, Omblines. Et à Orléans, le président Bory, comme il s'appelle au sein de sa vente, hein, au sein de sa loge, si vous voulez, réunit ses membres à l'auberge du Lys. Selon toute apparence, le régiment n'ira pas jusqu'à La Rochelle et s'arrêtera après l'étape de Tours à Sainte-Maure. Là commencera l'exécution du plan. D'après ce plan général, en effet, la destination présumée du 45e est de se joindre aux insurgés du pays et de marcher sur Saumur, dont les portes lui seront livrées par la garnison qui est gagnée. J'attends chaque jour les dernières instructions. Je les recevrai sans doute à Tours, leur dit Bory. Et avant de se séparer, le président recommande à ses troupes qu'il sent un petit peu désemparées quand même. Il y a de quoi. Elles sont inexpérimentées en matière de révolution et d'insurrection, ces troupes-là. Il leur demande de se méfier des Suisses de la garnison d'Orléans, qui eux sont très royalistes, bien entendu. Il y a aussi pas mal d'ultras, comme on dit à l'époque. Les ultras, ce sont les très forts partisans du roi. D'ailleurs, lui-même va être blessé par l'un d'eux. Le mouvement, désormais, peut se mettre en marche, ce qui ne veut pas dire que tout va se passer comme prévu. À Sainte-Maure de Touraine, en Indre-et-Loire, à moins de 40 km de Tours, le sergent-major envoie un jeune soldat sur la route de Chinon avec la moitié d'un foulard. Toujours le même principe. Lui doit rencontrer un pseudo-paysan qui doit lui montrer l'autre moitié du tissu. Il s'agit en fait d'un sous-lieutenant qui s'appelle Delon. Lui appartient à l'école de cavalerie de Saumur. Il est le bras droit du général Berton, qui va être dans cette affaire très important, puisque le général Berton, c'est le principal personnage de la conspiration. Seulement, Bory commet quelques jours plus tard une première erreur. À Poitiers, il se confie à un civil, un ancien officier, qui lui propose de l'héberger. Son hôte, lui aussi, professe une véritable haine contre les Bourbons. Alors Bory est en confiance, il lui dévoile toute la conspiration et les moyens qu'il a à sa disposition. Or, cet homme à qui Bory dit tout, cet homme va mettre au courant le commandant du département qui lui-même envoie un rapport au général d'Épinois, le commandant de la division militaire de Nantes qui à l'époque est en train de mettre à bas une autre conspiration menée par des militaires dans la région. On en dira un mot tout à l'heure avec Patrick de Gmeline. Donc Bory s'est complètement fait avoir. Sur la route de La Rochelle, il est arrêté, il est conduit à la tour de la Lanterne à La Rochelle qui à l'époque s'appelait ainsi et qui aujourd'hui donc s'appelle la tour des quatre sergents. Bory n'a pas été très surpris et d'ailleurs, avant d'être arrêté, il a fait remettre le commandement de la vente du 45e régiment d'infanterie à Goubin, le jeune Goubin qui reçoit notamment la fameuse boîte qui contient les poignards rituels, etc. Bory est en prison, la conjuration néanmoins peut encore fonctionner, c'est pas parce qu'il y a un membre qui est arrêté que tout s'écroule. Le 24 février, Bory est transféré de La Rochelle à Nantes, escorté par la gendarmerie, et là les trois autres sergents, Goubin, Raoult, Pommier, se disent qu'il faut néanmoins continuer d'aller de l'avant. Alors ils vont recruter de nouveaux adeptes, ils entrent notamment en contact avec la vente, donc la vente hein, c'est cette cellule si vous voulez, de La Rochelle, et ils reçoivent bientôt une excellente nouvelle. Des conjurés bonapartistes qui sont menés donc par le général Berton ont tenté quelques jours plus tôt de soulever sans succès la garnison de Saumur. Eh bien ces gens-là, ces conjurés, arrivent à La Rochelle. Ils sont moins de 50. Ils ont un drapeau tricolore. Goubin, Pommier et Raoult sont heureux d'avoir un général à leur côté. Tout le monde se réunit donc dans une auberge. Voilà ce que dit Pommier. La France est prête à marcher. Au premier signal, levez-vous et ne vous inquiétez de rien. Pas un officier ne pourra arriver au quartier. Les bourgeois se chargeront de leur barrer le passage. Seulement, en attendant, on procède à de nouvelles arrestations. Goubin est envoyé à son tour à la tour de la Lanterne à La Rochelle. Le sergent-major Pommier prend donc le commandement. Il entre en contact avec deux carbonari venus de Paris, dont un colonel, Denzel. Le dimanche 17 mars, Pommier réunit ses amis dans une auberge qui s'appelle le Soleil d'Or. L'attaque est fixée pour la nuit suivante, à 4 heures précises. Il ne faut pas trop boire, dit-il à ses compagnons. Il faut être prêt, il faut être d'attaque, évidemment. Seulement, Pommier va commettre une erreur à la sortie de l'auberge. À ce moment-là, il est reconnu par un adjudant, alors qu'il est pourtant déguisé en paysan. Il est arrêté et il est placé haut corps de garde. Goupillon, qui est un autre sergent, va aider Pommier à dérober les clés de la salle de police, ce qui fait que Pommier parvient à s'évader. Il retrouve un gradé qui lui annonce que l'attaque est repoussée de 3 jours, car le général Berton, qui est censé être pourtant le plus expérimenté des conjurés, le général Berton a oublié son uniforme de général à Saumur. Bon, on peut pas dire que cette conspiration soit très efficace quand même. Le sergent Goupillon, finalement, convaincu que tout va tomber à l'eau et pour éviter une condamnation trop lourde, décide d'aller tout raconter à son colonel, vous savez, le marquis de Toustin. Il donne même les noms des 21 conjurés et il signe une déclaration. « Malgré tous les serments que l'on me fit prêter sur un poignard, ma conscience m'engage cependant à révéler tout ce qui se trame contre la dynastie royale. Dimanche dernier, Pommier, sergent-major, membre de la commission des Carbonari, vint immédiatement après la parade nous prévenir de nous tenir prêts parce qu'il devait arriver le député et le commissaire avec lequel il devait se concerter pour que, le lendemain, sur les 4 heures du matin, les Carbonari puissent s'assurer des hommes dont ils sont bien sûrs dans leurs compagnies respectives afin d'arborer la cocarde tricolore et de s'emparer du colonel et des 2 chefs de bataillon. » Ça, c'est ce qui s'appelle des aveux un peu dicté, probablement. La même nuit, donc, toute la vente du 45e régiment d'infanterie est arrêtée. Les poignards, les armes, les munitions que les conjurés conservaient dans leur pactage, tout ça est retrouvé, bien entendu. De la prison de Sainte-Pélagie à Paris, Pommier, qui se trouve maintenant avec les autres accusés, se déclare, malgré l'échec de la conspiration et malgré l'effondrement de tous les espoirs, il se déclare fier. Si j'avais réussi, j'aurais eu la croix et je passais c'est capitaine de grenadiers. Allez, avant 1 an, vous verrez encore un mouvement de la même queue. Il y a 300 000 hommes en France dans les conspirations, dit-il. Le 21 août 1822, le procès des 4 sergents de La Rochelle et de leurs 21 complices va donc s'ouvrir devant la cour d'assises de la Seine. Le verdict, vous le connaissez, bien entendu. Le législateur, dira l'avocat général, doit surtout frapper le projet d'un complot parce que le crime, s'il était consommé, échapperait à la vindicte publique et se ferait absoudre et couronner par une aveugle fortune. Et oui, c'est bien tout le paradoxe de cette affaire. Si vous réussissez, vous êtes un héros. Et si vous échouez, c'est la guillotine. Nos 4 sergents n'en resteront pas moins fiers et dignes jusqu'à la mort. Bonjour Patrick de Gmeline.
Bonjour Franck Ferrand.
Eh bien, nous allons revenir sur cette affaire des 4 sergents et essayer surtout d'expliquer le contexte assez subtil dans lequel elle a pu voir le jour.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est aujourd'hui qu'eut lieu le sacrifice. Fasse le ciel, que ce soit le dernier. Ils ont dressé le mortel édifice qu'un peuple roi brisait en février. Elle est debout, la machine sanglante. À son travail, on ne peut pas sursoir. Républicain, voici la guillotine à l'Élysée. On dansera ce soir, à l'Élysée, on dansera ce soir. Femme du bal, sonnez votre servante, qu'elle vous mette un corset le plus beau. Les condamnés aux douleurs émouvantes n'ont pour valet que celui du bourreau.
Isabelle Druet sur Europe 1 avec le bal et la guillotine composé par Gustave Leroy. Les 4 sergents de La Rochelle sont au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand, vous recevez l'historien militaire Patrick de Gmeline.
J'ai toujours eu, Patrick de Gmeline, ce sentiment à propos des 4 sergents de La Rochelle que je connais depuis toujours parce que moi je suis né pas loin de La Rochelle et que ma mère était rochelaise, figurez-vous. J'ai toujours eu le sentiment qu'ils avaient été victimes de leurs rêves et d'une impréparation presque comique. On a l'impression que la conjuration dont ils étaient l'âme d'une certaine manière, cette conjuration n'était pas très sérieuse.
Je crois que c'est assez fréquent d'ailleurs dans les conjurations. On a d'autres exemples, non seulement en France,
c'est vrai,
mais à l'étranger.
Souvent les complots sont un peu fumeux, disons les choses.
Le complot du 20 juillet 44 contre Hitler, Stauffenberg, il y a une impréparation extraordinaire.
Total.
Bon, donc c'est à l'air assez commun à ce genre de choses. Alors oui, je pense que impréparation, beaucoup d'idéalisme, la liberté qu'on prône en France à l'époque, depuis 1789, est aussi une chose très importante. La gloire considérable de l'Empire, qui a laissé, c'est encore vrai en 2016, des traces très fortes en France, dans le peuple français, et aussi particulièrement dans l'armée. Et je crois que l'on peut dire aussi que cette armée de la Restauration favorisait de par sa composition les complots, les idées généreuses, mais ça n'aboutissait jamais.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que cette armée, elle a subi vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements et de meurtrissures depuis 40 ans. Ça avait commencé avant la Révolution, avec la grande réforme du comte de Saint-Germain, qui était ministre de la guerre du temps de Louis XVI, et qui déjà avait complètement remanié, réformé l'armée assez en profondeur, même si on conservait le privilège de noblesse, et que, à quelques exceptions près, seuls les aristocrates pouvaient commander des régiments, bien entendu, et a fortiori des armées, bien sûr. Bon, arrive la Révolution, la conscription, qui est un changement total dans les mentalités, c'est-à-dire qu'on va demander aux citoyens eux-mêmes d'aller faire la guerre, ce qui va créer des armées infiniment plus nombreuses, mais infiniment moins expérimentées, bien entendu, avec d'ailleurs un certain nombre des anciens officiers des armées royales qui passent au service de la République. Et puis, Napoléon là-dessus arrive, alors Bonaparte puis Napoléon, devrais-je dire. Il va rendre leur fierté aux soldats français, ça c'est certain, à travers toutes les conquêtes et toutes les victoires que l'on connaît, mais aussi, il va réformer de nouveau les armées et il va surtout donner aux militaires le sentiment qu'enfin ils sont au cœur de la société, ils sont les premiers de France d'une certaine manière. Et quand l'Empire chute en 1814, et j'ai envie de dire rechute en 1815, pour les soldats, pour les anciens militaires, pour tous ceux qui ont accompagné l'empereur sur les champs de bataille, évidemment, c'est un désastre. Et surtout que, qui remonte sur le trône? Le frère de Louis XVI, dont l'armée n'est pas le principal souci. Hein.
Absolument. Quoique, et en 1814 et en 1815, je reprends les deux dates que vous venez de donner, on commence très officiellement une réorganisation de l'armée. On va créer ce qu'on appelle des légions départementales, qui vont se transformer d'ailleurs par la suite, à partir de 1820, deux ans après le complot de La Rochelle, en régiment. On arrive à de nombreux régiments, ça concerne beaucoup de gens. Et l'un des gros problèmes, c'est que la troupe et les cadres, c'est-à-dire les sous-officiers et une bonne partie des officiers subalternes, même supérieurs, sont issus et de la Révolution et surtout de l'Empire, où ils ont connu non seulement la gloire, mais surtout ils ont appris le métier militaire. Et on leur donne comme chef, à partir de la Restauration, en grande partie des retours d'émigration, qui n'ont pas l'expérience de l'armée, sauf ceux peut-être qui ont combattu dans l'armée de Condé, qui était une véritable armée où on se battait et où on avait le rôle d'officier, était une chose importante, bon, même si les officiers servaient souvent comme simples soldats. Et ces émigrés reviennent et, n'ayant rien appris et rien oublié, le mois de Louis XVIII, ils veulent tous les postes et on leur donne. Il y a cette célèbre histoire, ça ne concerne pas l'armée de terre, mais la marine, où un enseigne de vaisseau se retrouve, âge aidant à la Restauration, l'âge d'être capitaine de vaisseau ou amiral. Et on lui donne ce grade. Et évidemment, il est la risée de toute la marine qui fut impériale, et qui voit un homme qui ne connaît rien à la marine.
On a l'exemple de Chaumaret qui va envoyer la Méduse sur les bancs d'Ardennes. On connaît
c'est
ça par cœur.
Alors, cette armée de la Restauration, qui est importante, qui prend de la place en nombre, qui est répandue dans toute la France, se retrouve avec une opposition, pas simplement latente, mais véritable, entre la troupe, les officiers subalternes, quelques officiers supérieurs et leurs chefs qui sont retour d'émigration. Mais il ne faut pas oublier non plus.
Donc, on peut dire clairement que les sous-officiers dont nous parlons, là, tous nos jeunes sergents très sympathiques, ils n'aiment pas leur marquis et leur baron
ils
de chef.
Pas,
parce
ils...
qu'ils savent que ce sont des aristocrates alors, qui reviennent d'émigration, en
alors,
fait.
Alors, non seulement ils n'aiment pas, mais ils n'ont pas, j'allais dire, un respect professionnel.
Voilà, c'est ça.
Professionnel.
Mais oui.
Pour eux, ce ne sont pas des soldats. Alors que un grand nombre d'officiers généraux de l'Empire, sortis eux-mêmes du peuple, ont gagné leur galon au feu, ont été souvent anoblis par l'empereur et eux ont rejoint la Restauration, disons-le franchement, par intérêt de carrière.
Mais oui.
Les généraux de division et de l'Empire se retrouvaient lieutenants généraux avec des titres car Louis XVIII pervers mais intelligent,
très intelligent,
se les attachait.
Bien sûr.
Et il y avait
mais ce qui est amusant, c'est de voir tout l'état-major de Napoléon qui finit par servir comme un seul homme le roi Louis XVIII. Hein.
Et alors, il y a aussi une chose importante dont il faut parler. La charbonnerie va trouver, dans ceux dont je vais parler, énormément de cadres. Ce sont ce qu'on appelle les demi-soldes. Ces officiers de l'Empire qui n'ont pas été réintégrés et pour cause en fonction de leurs pensées, de leurs activités, souvent de leurs succès qui plaident contre eux, qui n'ont pas été intégrés dans l'armée impériale. Alors on les met en demi-solde, c'est-à-dire qu'on les met à la retraite, avec une demi-solde, quelquefois moins, l'un des grands personnage romantique, si je puis dire, des demi-soldes, c'est Poncaral, du fameux roman d'Albéric Cahuet,
oui,
qui montre parfaitement bien cette vie et qui montre que ces demi-soldes vivant dans leur campagne recevaient des soldats d'actifs qui venaient les voir en leur demandant de se mettre à leur tête. Et là, la charbonnerie va trouver des cadres et des gens très actifs qui, la même chose, seront commandés le moment venu. Alors, vous voyez, l'armée de la Restauration, elle est belle, elle a de superbes uniformes, elle est commandée par des gens à un joli nom, mais à l'intérieur, il y a une sourde colère contre les chefs et contre les Bourbons. Donc, la charbonnerie va y trouver un terreau extrêmement favorable.
Alors, vous venez de prononcer le mot, la charbonnerie. On va y venir tout à l'heure, on développera cet aspect. Revenons un instant sur nos quatre sergents, là.
Oui.
Il y en a un qui m'a l'air quand même d'avoir la tête plus chaude que les autres, si je puis dire.
Oui,
hein.
Mais c'est classique, il est jeune, c'est un bon sous-officier.
Bory, hein.
Exactement, c'est un Aveyronnais. Tout ça compte beaucoup. Et il est effectif qu'il y a toujours, on dirait à notre époque, un leader.
Voilà, c'est ça, oui.
Et lui, c'est un leader. Donc, il a des idées plus précises. Il sait où il veut aller. Et malheureusement, il se trouve avec des gens qui ne suivent pas le fameux général breton dit Berton, qui a été un bon général de l'Empire. Il arrive à Nantes.
Oui.
Il a oublié son uniforme à Saumur. Quand on y pense, on se dit, mais c'est pas possible. Le chef oublie son uniforme. Or, il est très important que les conspirateurs soient en uniforme.
Comme on dit, la tendance ne suit pas, là.
Absolument. La tendance n'a pas. Mais quand on le lit, on se dit, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible.
Alors, et ça fait très amateur, quoi.
Ce jeune Bory se dit, mais c'est mon chef. C'est celui que je dois suivre. C'est pas possible. Ils sont complètement découragés,
oui,
en cours de route.
Oui, oui. Il faut aussi dire que, et je pense que, évidemment, une affaire comme la conjuration de La Rochelle, c'est le même cas avec Saumur d'ailleurs.
Ah, mais partout, il y a des
complots. Ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'exemple des 100 jours.
Absolument.
Car lorsque Napoléon est revenu de l'île d'Elbe, qu'il a débarqué à Golfe-Juan, qu'il a commencé à remonter vers Paris, on a vu la population, presque comme un seul homme, et surtout les armées, se retourner comme un gant et lui demeurer fidèle. Et donc les gens, on est quand même là qu'en 1822, on vient juste d'apprendre la mort de Napoléon. Donc on se dit qu'il suffit de lancer une étincelle et que le pays entier, enfin c'est ce que pensent ces jeunes gens, ils se disent que le pays entier va les suivre. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que Napoléon est vraiment parti, qu'on l'a oublié, que les affaires ont repris, que la paix et la prospérité se sont réinstallées en France et que les Français n'ont plus envie de l'aventure et que le roi Louis XVIII leur va très bien. Ça, ils n'en ont pas conscience. Hein,
trop de morts. Toutes les familles françaises, grâce à la conscription, si je peux dire, ou plutôt à cause d'elle, ont perdu des enfants. On s'en souviendra en 1914, les sillons sanglants des guerres de l'Empire comptent encore en 1914 dans des effectifs.
Alors, il y a une chose qui me paraît assez étrange aussi dans cette conspiration des quatre sergents de La Rochelle, c'est l'appartenance tantôt au bonapartisme, tantôt au républicanisme. C'est quand même pas tout à fait la même chose.
Or,
on a l'impression que parmi les conjurés, il y a les deux.
Oui,
en fait.
C'est vrai. On a les deux. Il y a ceux qui rêvent de 89-93.
C'est ça.
Y compris l'année terrible, si je puis dire. C'est à une autre qu'on a donné le nom plus tard. Où là, sont les Jacobins qui gouvernent avec tout ce que ça suppose. C'est le pouvoir à tout le peuple, sans aucune limitation, y compris les plus grandes cruautés, la Révolution le prouve. Et puis, il y a les bonapartistes qui réintroduisent une notion d'ordre, de hiérarchie, de mise au point des choses. Et les deux tendances, effectivement, existent. Et il se trouve que Napoléon avait fait cette... Il est fils de la Révolution, mais le fils a fait d'autres choses. Alors, ces deux tendances s'affrontent également. Et elles vont continuer à s'affronter très tard. N'oubliez pas qu'au cours de la Troisième République, on a encore la partie monarchiste véritable qui pourrait parfaitement aboutir. Le comte de Chambord aurait pu remonter sur le trône. On va pas gloser là-dessus. Bon, mais il y a les républicains, il y a les descendants des révolutionnaires. Moi, je me souviens, je ne citerai pas le nom, quand j'étais jeune étudiant en droit, j'allais chez le fils d'un grand professeur de droit. Je ne citerai pas son nom car il est très connu. Et je me suis trouvé, dans les années 1965, dans un appartement, rue d'Assas, je me souviens, absolument splendide, qui appartenait à ce grand juriste professeur qui était entièrement décoré à la révolutionnaire. Le papier, les meubles, les bibelots, tout était à la gloire de la révolution de 1793.
Oui, bien sûr.
C'est incroyable.
Oui.
Bon, alors à l'époque, c'est encore plus important car vous dites, Franck, Napoléon est mort. C'est vrai.
Il vient juste de mourir.
Il vient juste de mourir. Donc ça a ravivé aussi.
Bien sûr.
Et la France, certes, veut la paix, et elle pense l'avoir trouvée avec la Restauration, elle va rapidement déchanter, mais en fait, il y a des courants souterrains, et le bon bourgeois lui-même, qui bien souvent, d'ailleurs, doit sa bourgeoisie à la Révolution.
Et bien sûr, et aux biens nationaux.
Aux biens nationaux, il ne faut pas oublier que c'est une chose qui compte beaucoup à l'époque. On veut la paix, on veut surtout pas des gens qui vont risquer de détruire cet ordre établi. Donc ça se passe dans une situation extrêmement difficile.
Comment les Français ont-ils réagi à l'exécution de ces quatre jeunes sergents ?
Eh bien, je pense qu'ils ont réagi en dehors de ceux qui se trouvaient sur la place de grève et qui ont assisté
à l'exécution.
Je ne sais pas s'il y avait encore des tricoteuses au premier rang. Mais en dehors de cela, on en a relativement peu parlé. L'une des habiletés du gouvernement, c'est d'avoir tenu les choses un peu sous le boisseau. Ne pas oublier qu'il y a, à cette époque, il n'y a pas que le complot des quatre sergents. Il n'y a pas que le complot de Saumur.
Il y en a d'autres ailleurs, si vous voulez.
Et la même année, en plus.
On y vient dans un instant, Patrick.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Les quatre sergents de La Rochelle sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Et pour en parler avec vous, Franck Ferrand, vous recevez Patrick de Guémelin. Il est historien militaire.
Patrick de Guémelin nous disait que des complots, il n'y en a pas qu'à La Rochelle. À la même époque, on voit des petites conjurations qui explosent comme ça un peu partout. Ça fait presque toujours l'effet d'un pétard mouillé, disons les choses.
Ça fait pchit.
Mais alors, donc.
Alors, il y a Saumur dont vous avez parlé.
Alors, bien sûr, très important.
Le plus important pour différentes raisons. Alors, y compris le fait que Saumur est le temple de la cavalerie. Mais enfin, à l'époque, ça ne compte que moyennement. Il y en a un à Saumur, à Belfort.
Oui.
Belfort qui est quand même une ville importante.
Eh
une ville
de stratégiquement essentielle.
Exactement. Toulon, un certain capitaine Vallée, va soulever également, tout à fait en vain. Il y a Nantes, en février 1922. Tout ça, en plus, se passe la même année. On va voir Strasbourg, également. On a Colmar. Donc, toutes ces villes voit un certain nombre de complots.
Pourquoi est-ce qu'on a mis l'accent sur La Rochelle et sur ses quatre sergents, alors qu'il y en a tant d'autres de ces complots?
Alors,
et c'est devenu une sorte de symbole.
C'est un symbole. C'est le symbole de la liberté. Et symbole d'ailleurs qui va être célébré très longtemps, jusqu'en 68, où un certain nombre d'étudiants révolutionnaires de l'époque, tous généralement bon bourgeois d'ailleurs, sont allés sur la stèle qui se dresse au Père Lachaise à la mémoire des quatre sergents de La Rochelle, pour s'incliner. Et on a vu souvent des cérémonies qui sont passées. Ils ont vraiment représenté la liberté. D'ailleurs, on les surnommait les martyrs de la liberté.
Et ils vont jouer un rôle très important en 1848, au moment de la révolution de février 48 qui va chasser le roi Louis-Philippe cette fois. Alors là, c'est une monarchie constitutionnelle, on n'entre pas dans les détails. Mais au moment de cette révolution qui instaure la Deuxième République, eh bien évidemment, les républicains vont ressortir, si je puis dire, nos quatre sergents. On va voir fleurir des gravures, etc.
Énormément de gravures qui sont à leur gloire. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'après 1848, on va avoir Louis-Napoléon, devenu Napoléon III, qui était lui-même membre de la Charbonnerie.
Et voilà.
Il ne faut pas l'oublier. On retrouve à chaque fois, à chaque coin de rue, si je peux dire, la Charbonnerie qui revient. Et c'est vrai que si ces quatre sergents avaient survécu, en admettant même que ça n'ait pas réussi et qu'on ne les ait pas guillotinés, il est évident qu'ils seraient revenus sur le devant de la scène, complètement. 1848 est une conséquence, il y a 1830, puis 1848, toutes ces révolutions successives, la Charbonnerie y est plus ou moins menée de façon beaucoup moins importante, parce que officiellement la Charbonnerie en France arrête à partir... 1822 est une date, 1823 est une date qui marque un petit peu la fin actif de la charbonnerie en France.
Parlons-en de ces carbonari qui deviennent les charbonniers, si je puis dire, en France. De quoi s'agit-il ? J'ai parlé des ventes, hein, et j'espère que les auditeurs qui nous ont rejoints en cours ont compris de quoi nous parlions. C'est le nom qu'on donne aux loges, en fait.
Aux loges. Et d'ailleurs, ça c'est une chose qu'on peut dire, parce que c'est vrai, et vous l'avez, dans votre propos tout à l'heure, dit d'une manière indirecte, la franc-maçonnerie et la charbonnerie sont très liées. La plupart des membres de charbonnerie font partie de la franc-maçonnerie. Les rites sont totalement pris à la franc-maçonnerie. Le coup des poignards, c'est l'épée. Le vocabulaire, le rite. Et tout ça est intimement mêlé. Bon, ça vient d'Italie, c'est vrai. Les carbonari.
Ça vient même spécifiquement de Naples, hein, absolument. Comme par hasard.
Les Bourbons sont toujours en face, si je puis dire, dans tous les sens.
Tous et ces mouvements sont des mouvements anti-Bourbons, d'une certaine manière.
Anti-Bourbons et qui se basent sur l'exaltation de la liberté. Il est vrai que le peuple n'a pas eu droit à la parole très souvent depuis la Révolution. On ne peut pas dire que sous l'Empire, le peuple est vraiment voix au chapitre,
c'est
apparence. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ceux qui
Il y a
sont...
eu des plébiscites, hein, quand même. Ouais. Je dis ça parce que je sais que certains de nos auditeurs vont tout de suite réagir en disant mais que faites-vous des plébiscites ?
Oui, on pourrait gloser sur la question.
Oui, bref.
Bon. Mais donc, ces partisans des libertés, en Italie, ont créé cette société qui est quand même secrète, officiellement. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de jeunes candidats à la charbonnerie, qui étaient simplement des apôtres de la liberté, sont venus en Italie, sont venus à Naples, ont été reçus et ont été d'ailleurs intégrés. On leur a donné un petit ruban tricolore. Je ne sais jamais su si le ruban tricolore était au tricolore, pas italien à l'époque, tricolore français, qui était un signe d'appartenance.
Oui, c'est un rappel de la Révolution.
Absolument,
en fait,
et l'un des quatre sergents de La Rochelle revient d'un voyage en Italie, je ne sais pas comment il y a été, en arborant fièrement ce petit ruban tricolore. Donc, ça s'implante en France, et alors qu'en Italie, très rapidement, les choses s'étiolent, en France, on est une espèce de deuxième élan. Et ne pas oublier aussi que dans la même époque, nous avons d'autres sociétés secrètes, comme en Allemagne, la Sainte-Wehm, qui, elle, va tout à fait dans l'autre sens, et qui va être aussi cruelle, elle va même être plus cruelle. Parce que les charbonniers, ils veulent, à l'exemple des carbonari, lancer des révolutions, prendre le pouvoir, en mettant surtout dehors les Bourbons. Ça, c'est une obsession.
La souveraineté pour le peuple, en
Absolument.
Gros.
Mais il n'est pas dans leur esprit de guillotiner tout le monde. Alors que la Sainte-Wehm, on repère un traître, on l'exécute aussitôt.
Quelle est l'attitude des carbonari face à l'Église ? Parce qu'on a parlé des Bourbons, mais je crois qu'il y a une dimension assez anticléricale aussi.
Tout à fait. Ah, mais ça, on est dans la ligne absolue de la Révolution française. C'est tout à fait anticlérical. Et autant on trouve un certain nombre d'aristocrates qui font partie de la charbonnerie, malgré tout, des prêtres ou d'anciens prêtres. Alors, il y avait peut-être des prêtres défroqués, j'avoue que je ne le sais pas. Mais l'Église est incontestablement un adversaire. Comme d'ailleurs, l'Église sera l'adversaire pendant toute la Troisième République, de ceux qui sont au pouvoir, qui sont dirigés par la franc-maçonnerie.
Est-ce qu'on ne peut pas voir dans ces ventes carbonaristes, donc dans ces loges paramaçonniques, oui, je ne sais pas trop comment les appeler, est-ce qu'on ne peut pas voir le creuset d'un certain nationalisme ou d'idées de nationalité, en tout cas ? Est-ce que ce mouvement des nationalités qui va parcourir tout le XIXe siècle ne trouve pas là un lieu d'élection ? C'est une question que je pose.
Non, moi je ne le pense pas, même si il est vrai que les membres de la charbonnerie française, et notamment la charbonnerie dans l'armée, croyaient énormément, et c'est normal, au drapeau tricolore, qui est le symbole on ne peut plus, de la France. Et ce n'est pas encore la France dans l'absolu, c'est la France républicaine et napoléonienne.
Mais ils vont aider les Italiens à faire leur unité,
oui, c'est vrai,
etc.
C'est vrai.
Il y a cette dimension-là. Et là, Napoléon III, évidemment, et son grand frère, d'ailleurs, qui est mort au combat, ont joué un rôle.
Comme un prince Murat, qui était un des grands patrons de la franc-maçonnerie en France à cette époque, a été lui aussi en lien avec la charbonnerie. C'est toujours le lien qui unit les sociétés secrètes sous un gouvernement quel qu'il soit. Il y a toujours une opposition, et dans l'opposition, il y a des sociétés secrètes. Eh bien, l'opposition de la Restauration, de manière très précise, c'est la charbonnerie.
De même qu'il y avait du temps de l'Empire contre Napoléon, des conjurations qui, elles, étaient plutôt royalistes, Absolument. Bien entendu, et qui se réunissaient aussi dans le plus grand secret avec leurs codes, avec leurs rites, etc.
Avec la non-connaissance du degré du dessus. Quelque part, on pourrait presque penser à des mouvements de résistance, celle de la, guerre de 40, où on n'était pas censé connaître le nom de celui qui était au-dessus de vous.
Je
le culte du secret.
Je m'empresse de dire qu'on ne peut en rien comparer le gouvernement, certes assez réactionnaire, du roi Louis XVIII avec un gouvernement d'occupation ou de terreur. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, revenons à nos quatre sergents. On a l'impression que non seulement ils n'ont pas de respect pour leur chef, qui sont des marquis, des barons, etc. Tout ça leur paraît complètement folklorique. Mais on a aussi l'impression qu'on manque de discipline dans ces régiments. Vous n'allez pas me dire que si tout ça avait été bien encadré, ils auraient pu, comme ils l'ont fait, organiser des réunions à n'en plus finir avec les étudiants du quartier latin.
Alors, je suis plus modéré là-dessus. C'est vrai que vous avez cité ce fameux exemple de l'officier qui arrive devant le régiment et qui crie « Vive le roi !» Personne ne lui répond, alors que ça devrait être à la limite aussi une question de discipline.
Oui,
les officiers crient « Vive le roi !» et on suit derrière. Je pense que la discipline, elle existait quand même parce qu'on avait affaire dans la troupe à des soldats formés par la Révolution et surtout par l'Empire. Je dis bien surtout par l'Empire, parce que des soldats de 20, 22, 23 ans, ça n'a pas vraiment vécu la Révolution, ça a vécu l'Empire. Je crois que la discipline existe. Je pense aussi qu'il y a une volonté de fronde de la part des soldats des quatre, c'est-à-dire les sous-officiers, vis-à-vis de leurs officiers. Ne pas être terriblement discipliné, c'est embêter, c'est gêner les officiers qui sont des officiers souvent représentants d'Ancien Régime. Et ça, quelque part, ça excite un petit peu les soldats. Mais globalement, l'armée est disciplinée. Ne pas oublier qu'un an plus tard, il va y avoir la guerre contre l'Espagne.
Ah oui.
On va courir au secours des Bourbons qui font quand même pas
encore
mal de bêtises en Espagne. On part en Espagne, la fameuse victoire du Trocadéro. Eh bien, je peux vous dire que dans l'armée française, y compris certains contingents qui contiennent des étrangers, la discipline existe, ils savent se battre et ils remportent cette victoire. On ne va pas faire du Trocadéro malgré la place qui lui est donnée, une victoire extraordinaire, mais c'est une victoire et c'est fait par des soldats qui savent se battre.
Il y a cette ambiguïté, cette ambivalence dont je parlais tout à l'heure et que souligne l'avocat général lorsqu'il demande qu'on les punisse de façon très exemplaire, ces jeunes sergents. Il explique qu'en vérité, s'ils avaient réussi, ils seraient devenus des héros.
Bien
et
sûr.
Que c'est la raison même pour laquelle il faut donc les punir très gravement. C'est toute la relativité du régime politique.
Et puis,
ça.
Y a la réaction de peur des juges.
Est-ce qu'on peut parler d'une trahison de la part des sous-officiers en l'occurrence ?
Non, je crois pas. Je ne pense pas qu'une seconde ils pensent à la trahison. Au contraire, ils n'ont pas en l'esprit...
La trahison, c'est au profit d'une nation étrangère, hein, par définition.
Oui, bien sûr. Non, je ne pense pas qu'il y ait du tout ça. Ils veulent abattre les Bourbons et donner quelque chose de mieux à la France selon leur esprit. Mais vous parliez à l'instant du procès. Je pense à un autre procès qui est fictif, que celui du rouge et le noir. Du rouge et le noir.
Bien sûr, oui.
À la fin, lors du procès,
magnifique, oui.
Le héros dit bien au juge...
Julien Sorel,
le héros dit « Vous êtes à votre place et moi à la mienne, mais ça pourrait être le contraire. » Et il arbore sa Légion d'honneur.
On est dans une époque qui a tellement changé de régime depuis 40 ans
exactement.
Qu'on a fini par acquérir un sens de la relativité des
absolument.
Choses.
Hein,
ça, c'est assez extraordinaire. Le tribunal qui juge les quatre sergents, c'est un tribunal
militaire,
bien entendu.
Absolument. Ah bah oui. Là, on respecte la règle. Ce sont des militaires qui ont commencer un complot qui n'a pas abouti, car n'oublions pas que le complot n'a pas abouti. Il n'y a pas de fait délictueux se traduisant par un complot avec une action. Pas arrivé là. Mais c'est quand même le tribunal militaire. Et les tribunaux militaires ne font pas de quartier. Dans un autre sens, sous l'Empire, le tribunal militaire qui a jugé le duc d'Enghien, il a été fusillé quelques heures plus tard dans les fossés de Vincennes.
Je clorerai, si vous le voulez bien, Patrick de Gmelin, cette émission par une petite remarque ironique. C'est que, bien sûr qu'on parle des quatre sergents qu'il y a dans plusieurs villes de France, des rues des quatre sergents. À La Rochelle, c'est une évidence, bien sûr. Mais enfin, quand même, on n'en a pas fait des tonnes. Parce que, fondamentalement, ça n'est pas très bien perçu que des sous-officiers se révoltent, disons les choses. On n'en a pas vraiment fait des héros.
Non. Les révoltes militaires en France sont généralement assez mal perçues,
oui.
Surtout quand elles échouent, ce qui est le cas de la majorité d'entre elles.
Et oui. Et alors là, pour le coup, on en aurait d'autres,
on en aurait d'autres.
À citer, bien entendu. Je veux, moi, citer votre dernier ouvrage qui s'appelle Le Maître de Cave. Alors là, vous quittez l'armée, vous quittez les essais historico-politiques pour entrer dans le roman.
Je suis dans le roman historique dans le monde du champagne. Il se trouve que pendant plusieurs années, j'ai vécu dans ce milieu en tant qu'historien de plusieurs maisons. Et j'ai utilisé toutes mes connaissances pour en faire un roman sur 200 ans avec la montée de deux lignées, l'une de maître de maison et l'autre de maître de cave. Et ce livre est effectivement sorti, mais je reste à l'armée puisque je suis va être publié bientôt une nouvelle histoire de la Légion étrangère chez Perrin. Et puis, j'ai d'autres choses encore.
Merci beaucoup Patrick de Gmelin. Les auditeurs d'Europe 1 et les quatre sergents de La Rochelle vous savent gré.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Vincent. Il s'interroge sur les origines des expressions liées au tambour.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Vincent. Il vous demande, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, de revenir sur l'origine des expressions liées au tambour, comme battre la chamade ou battre son plein.
Alors, battre son plein, je règle tout de suite cette affaire parce qu'on en a beaucoup parlé déjà, mais cette expression battre son plein n'a pas d'origine militaire ou liée au tambour. Son emploi, en fait, fait référence à la marée haute, particulièrement au moment où l'eau stagne lorsque la marée atteint son plus haut point avant de redescendre. Le mot plein proviendrait d'une confusion entre plein, P-L-E-I-N, et plein, P-L-A-I-N. Et ça pourrait se rattacher à l'ancien français plein, qui veut dire rivage plat. On utilise désormais cette expression à propos d'une forte intensité. Par exemple, on dit que la fête bat son plein. Alors, depuis quelque temps, on nous dit que, en fait, ça signifie que c'est le plein son du tambour. Et donc, lorsqu'on dit la fête bat son plein, au pluriel, ça donnerait les fêtes battent son plein. Je vous ferai observer que si l'on retient l'origine maritime pour expliquer cette expression, eh bien, il faudra bien dire « les fêtes battent leur plein ». Voilà. Mais je sais que certains ne seront pas d'accord. Alors, en revanche, tout le monde se mettra d'accord sur « battre la chamade ». L'expression appartient là au vocabulaire militaire. Il s'agit d'une batterie de tambour ou de sonnerie de trompette qui annonce le désir de parlementer la chamade. Ça vient du latin « chiamada » qui signifie « la clameur ». Et cette expression, actuellement, n'est plus employée, vous le savez, qu'au sens figuré. Le cœur qui bat très fort sous le coup d'une émotion et sous le coup essentiellement d'un grand amour.